Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, épisode numéro 12, dédié au film. Ce soir, autour de la table, j'ai avec moi Juk.
Bonsoir.
Monsieur l'ours.
Salut.
Et Dr Matt Geek.
Hello.
Et je vais céder la parole à Monsieur l'ours, qui nous parle de...
Avengers Endgame. On va commencer par, effectivement, un petit truc pas très connu. On va suivre un peu l'actualité pour cette première reco film avec, du coup, le dernier Avengers. Je sais pas si c'est bien nécessaire de le présenter, mais bon, on va quand même mettre les petites informations. Dernier film de 10 ans de film Marvel, qui est donc est censé conclure la phase en cours, qui, si je ne me trompe pas, est la phase 3. 10 ans surtout de Marvel Cinematic Universe et 10 ans d'acteurs on va dire emblématiques, puisque hors caméra on sait que c'est un film qui verra partir des acteurs qui ne remplissent pas, notamment Robert Downey Jr. qui joue Tony Stark. Donc il y avait quand même une certaine forme d'attente derrière ce film.
Oui, il est mort.
Il est dans la vie, il est pas mort, non. Il a juste eu envie de faire autre chose. Enfin, ça va être dur pour lui, je pense, mais on y reviendra peut-être. Mais je faisais pas partie des fans du précédent film Infinity Wars, dont Endgame est vraiment la suite directe, puisque je vais essayer de pas du tout spoiler Endgame, mais par contre, évidemment, on va spoiler Infinity Wars parce que maintenant ça fait un peu longtemps et puis que voilà. Donc à la fin d'Infinity Wars. Le méchant principal qu'on nous tease depuis 10 ans, Thanos, vient de supprimer la moitié de la population de la Terre d'un claquement de doigts, et donc on commence ce film dans ce statu quo-là et sur le fait que nos héros vont devoir trouver une solution pour soit vivre avec cet échec, puisqu'ils n'ont pas pu arrêter cette tragédie dans le film précédent, soit trouver une solution éventuellement pour inverser les choses. Et donc, ouais, Infinity Wars, j'avais trouvé que quand on connaissait un tout petit peu les comics, on savait quelle était la fin de ce film, parce que Thanos, c'est quand même un méchant assez emblématique. J'avais trouvé surtout qu'il manquait un énorme... qui manquait beaucoup d'émotions en fait dans le film, alors que on nous montrait quand même des personnages qui disparaissaient suite au claquement de doigts. Et certes, c'était une débauche de scènes d'action, de personnages qui se réunissent, d'univers un petit peu différent, parce que le film se balade à travers plusieurs contextes et planètes, donc c'était cool. Mais voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé du coup dans Endgame, c'est qu'on a cette petite touche d'émotion supplémentaire. Clairement, ils terminent beaucoup de choses avec ce film, et donc du coup ils arrivent à créer des notions de lien entre les personnages qui, je trouve, fonctionnent assez bien, et en tout cas pour moi, m'ont mouillé un petit peu les yeux à quelques scènes. Toute la première partie du film, je trouve, est vraiment cool, assez surprenante par rapport au film précédent, je trouve la fin assez réussi. Et on va dire que du coup, pour moi, il y a un ventre mou qui, très étrangement, en fait, correspond à la scène d'action principale du film, que j'ai trouvé vraiment osef total. Voilà, on sent que Disney a du pognon, ils peuvent faire des choses incroyables en CGI, mais en fait, à un moment donné, les enjeux, tu les perds complètement quand t'as autant de choses à l'écran et de personnages et de menaces qui n'en sont plus vraiment. Enfin, il y a voilà. Je trouve que on atteint là un peu les limites de ces trucs-là, là où, je me faisais la réflexion qu'en sortant du Seigneur des Anneaux, les premières fois, on était bluffé, enfin surtout des deux tours, par ces armées numériques. On se disait waouh, c'est incroyable ces avancées technologiques. Maintenant, on en a dans tous les films quasiment, avec un peu de spectacle. Et je trouve que il manque vraiment un côté viscéral dans tout ça. Je trouve quand même que les frères Russo, les réalisateurs du coup qui sont quand même à la tâche depuis Civil War et qui avaient réalisé quelques épisodes assez emblématiques de Community, qui est une série de cœur pour plusieurs personnes autour de la table, s'en sortent vraiment bien quand on sait que Josh Whedon a pété un câble en vol pendant Avengers 2. Je trouve qu'au final ils ont réussi à mener leur barque et que le film est pas décevant dans ce qu'il apporte comme réponse et dans les multiples clins d'œil qu'il fait aux fans sur 10 années de film. Donc ça reste, selon moi, un film à voir. Mais en même temps, quand on sort de là, on se dit « Ah bah bon, c'est bon, du coup maintenant je peux arrêter quoi ». Donc bilan mitigé pour ce Avengers Endgame. Je pense que je lui mettrai un peu plus que la moyenne quand même, mais pour encore une fois ces moments d'émotion qui m'avaient manqué dans le précédent. Mais voilà, je trouve que là Marvel a réussi un truc, c'est indéniable depuis plusieurs films, mais je trouve que maintenant il est temps qu'ils se renouvellent et qu'ils donnent un peu de corps à leurs personnages et aux enjeux qu'ils traitent dans leurs films quoi.
Donc c'est une apothéose. C'est une belle fin d'apothéose.
Oui, ça reste un des meilleurs, je pense, Marvel depuis 3-4 films, on va dire. Peut-être même un peu plus.
Ça doit faire 5 ou 6 que personnellement j'ai arrêté les Marvel.
D'autres l'ont vu. Moi je les regarde, mais je suis incapable. Enfin, Endgame je l'ai pas vu, mais c'est surtout je suis incapable de les situer les uns par rapport aux autres. Quoi. Je suis totalement paumé depuis des années, enfin je crois depuis le début d'ailleurs.
Le Monde a fait une vidéo qui explique.
Oui.
Les personnages Marvel, les
et j'ai même la vidéo, autres. Elle est incompréhensible, je crois. Donc,
ouais, moi, j'ai carrément. Moi, j'ai aussi carrément aimé la conclusion de cet axe-là. Et puis, je soulignerais même que techniquement, en dehors des effets spéciaux, CGI et tout ça, là, c'est la photo et ils ont apporté un soin hyper particulier, comme maintenant chez DC, hein, d'ailleurs. Et t'as des images où tu frises dessus pendant un moment parce que tu sens que ça peut être un poster dans une piole, quoi, tellement c'est magnifique, quoi. Mais par contre, je pense que cette débauche là, tu vois, de d'armée, de trucs de machin, on est un peu trop habitué, je pense que là quand même il rate quelque chose parce que si on s'en lasse un peu, je veux dire quand tu regardes Game of Thrones,
oui, je pense à ça, ouais.
Les émotions elles sont là quoi parfois, et le frisson, le truc machin. Donc si Marvel n'arrive pas à le faire, c'est peut-être parce que c'est trop entouré de fioritures et tout ça. Mais puis cela dit, c'était un peu court aussi finalement dans la totalité.
Pour 3 heures malheureusement.
Ouais, il dure 3 heures. Quand même.
Moi j'ai bien aimé et puis finir ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Faut avoir nos âges, je pense, pour se rappeler de ça, que Iron Man, quand il a débarqué, Marvel faisait revivre une momie, quoi. C'était un has-been des... Le mec, quand tu regardes les comics, il est en patin roulette au début, quoi. Donc, ils ont vraiment fait le pari de ramener un gars, moi j'aurais pas parié dessus, quoi.
C'est ce qui se passe depuis des années avec les films de super-héros, quoi. Ils raclent, ils font le tiroir, quoi.
Ouais, mais quand c'est bien incarné, et là, clairement, Robert Downey Jr., moi, j'y croyais pas. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, putain, il va gâcher le personnage. Et franchement, maintenant, t'es...
Non, il l'incarne vachement. Tu t'attends à ce que ce mec-là, dans la vie, il soit comme Iron Man, quoi.
Bah, je pense qu'en fait, après, pour avoir vu d'autres films dans lesquels il joue à peu près tout le temps la même chose, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Il y a très peu de variations dans son jeu.
Un peu de façon de jouer qui est ultra séduisante, qui est ultra sympa, ultra rigolote, mais c'est un peu toujours la même.
Ouais.
Il y a un truc marrant, comme tu dis, Iron Man, le premier, enfin, pour moi, tu vois, si maintenant tu me parles des films Marvel, je crois que le seul que je retiens, c'est à peu près le premier Iron Man, quoi. Parce que les autres,
mais
marqué vraiment, je dirais pas qu'Iron Man m'a marqué, c'est juste qu'après avoir vu tous les autres, c'est celui qui reste.
Bah, en général, ceux qui, où t'apprends un peu de la genèse du personnage restent un peu plus facilement que les autres, quoi. Iron Man, dans le premier, il se fait sa capture de, tu sais, il se fait son armure, là, de boîte de conserve avant d'en faire une meilleure. C'est hyper mémorable, quoi.
Puis il a une touche d'humour et tout.
Ouais, ça, par contre, et Marvel a vachement développé ça au fur et à mesure des années, hein, avec Disney aussi. Puis d'ailleurs, c'est intéressant de revenir sur le fait de, voilà, est-ce que Disney a gâché Marvel? Je trouve pas, moi.
C'est très compliqué de savoir. En tout cas, ils ont réussi ce que personne d'autre n'a réussi à faire avant eux avec les licences Marvel. Enfin, quand on voit Sony qui galère avec Spider-Man, qui en est à son 3e reboot et qui, au final, appelle Marvel à la rescousse pour leur dire non, mais ok, aidez-nous un peu sur ce coup-là parce que là, vraiment, on sait pas quoi faire. En effet, je pense que, Disney, ils ont, je crois Kevin Feige, le personnage, le mec qui est producteur un peu général de toute cette licence-là et qui est depuis le début et depuis le premier Iron Man à la tête de ce plan mégalomane de se dire on va faire 2 films de super-héros par an pendant 10 ans et on va créer des histoires. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde ça, on se dit le mec a quand même réussi à créer des choses qui sont ultra rentable et qui sont vus mondialement et qui rapportent énormément. Je crois qu'il vient de faire tomber le record de Titanic
de Avatar.
Alors, il est en route pour Avatar, il me semble, mais Titanic, c'est sûr.
Ah oui, Titanic, James Cameron a fait
une
image,
petite image. La tradition veut que le réalisateur qui se fait manger son record fait une image pour.
Et là, ils ont fait
un
logo Marvel en forme d'iceberg qui coule le Titanic. Ouais.
Donc les mecs font, enfin, ça fonctionne tellement bien que au final, quand, enfin, Endgames. Oui, c'est un season final de série. Si t'as pas vu les autres, il y a quand même énormément de bouts qui te manquent. C'est quand même super audacieux de se dire, on s'en fout, quoi. Les gens, ils ont vu les autres films, donc on va oser faire ça. Et en plus, ça marche de ouf. Donc, c'est un putain de truc d'américain, quoi. Les mecs, ils avaient un projet d'entreprise, tu vois, presque. Et puis, ils l'ont mis en branle avec leur force de frappe. Et puis, il y a quelqu'un qui disait qui se posait la question de savoir si ça allait avoir le même impact que, toujours les comparaisons un peu cultes comme ça, mais que Star Wars pour les générations, les ados d'aujourd'hui, culturellement, c'est pas comparable, mais en tout cas, ils ont grandi avec ces films, et c'est un imaginaire
de notre
super
point
fort,
de vue,
quoi.
À nous, de trentenaires ou presque quarantenaires, comment c'est assez dur, je pense, à envisager, mais je pense que.
C'est une possibilité. Ouais. Moi, je suis content de participer à ce numéro spécial Marvel.
Bah ouais, hein.
C'est très très cool.
Non, mais c'est un sujet. Ok, bon, moi je suis pas du tout client et ça me déprime de voir qu'ils en font et qu'ils vont refaire.
Ils viennent d'annoncer leur roadmap jusqu'à 2025, ils vont encore.
Avec Avatar 24.
Je suis pas client, moi ça peut être sympa, mais je vais directement ces films-là. Moi, c'est des films que je regarde le dimanche après-midi en jogging quand j'ai pas encore pris ma douche. Ouais, quoi.
C'est exactement ça, c'est le
et
film du dimanche.
Pas, j'arrive pas à les mettre ailleurs, quoi, donc du coup j'arrive pas à les juger.
Mais c'est aussi aujourd'hui quelque chose, moi par exemple, que je partage avec mes enfants, quoi. Et c'est cool. C'est vraiment cool, quoi, de pouvoir partager.
Moi, je partage Zora l'exploratrice.
Okay, ah, Zora l'exploratrice, intéressant. Intéressant concept.
Un crossover entre Zelda et...
Ou Zora Larousse. Tu te souviens pas de Zora Larousse? Non, t'es trop jeune encore.
Bon, ça dévie, on passe. Julien?
Oui, c'est moi.
Tu me parles de...
Moi, ce soir, je fais un thème russe, moi, ce soir.
Sans transition aucune. On passe des Russes aux Américains.
Des Américains aux Russes. Moi, je vais vous parler de Koursk. Le film sur la catastrophe que tout le monde connaît à peu près. Non, le sous-marin.
Le sous-marin, oui.
Ça date de, pourtant c'est pas très vieux, ça date de 2000, la catastrophe du Koursk, que c'était un sous-marin russe qui a coulé dans la mer de Bahreïn. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui a coulé dans la mer de Bahreïn et dans lequel une vingtaine de sous-mariniers ont réussi à survivre dans un des compartiments pendant quasiment 5 jours, je crois, environ. Ça avait fait les titres de tous les médias partout parce que du coup les Occidentaux proposaient leur aide pour aller secourir les sous-mariniers, etc. Et voilà. Et ça reprend ça, le film. Ça reprend l'histoire à l'extérieur du sous-marin, de ce qui se passe au niveau politique, au niveau russe, pour aller les secourir. Et ça prend aussi, du coup, ça passe aussi sur ce qui s'est passé pour les sous-mariniers dans ce fameux compartiment où ils ont survécu quelques jours. Le film lui-même, c'est un très bon film. La réalisation est très bonne, les acteurs sont vraiment très bons. Il y a un vrai huis clos dans le sous-marin avec une vraie tension.
Le contraire eût été étonnant.
Oui. c'est pas un film catastrophe à la Poséidon, tu vois, américain. C'est quand même plus cru que ça, plus mieux réalisé. C'est pas de la réalisation américaine. Enfin, les acteurs sont très bons. Il y a Léa Seydoux, je crois, dedans, qui joue. Talia Kalikoff, ouais, je serais incapable de te dire laquelle c'était. Il y a Matthias Schoenaerts qu'on a vu dans d'autres films. Là, tout de suite, ça me revient pas. Si, on l'a vu dans Red Sparrow, on l'a vu dans Frères Ennemis, on l'a vu dans quelques films qui sont très bons. L'acteur est très très bon dans le film. Voilà, les petites critiques que j'ai à faire. Alors, déjà pour l'histoire, la vraie catastrophe du cours, il y a eu énormément de théories. Il y a eu des théories vis-à-vis des Américains sur pourquoi le bateau a coulé, comment ça s'est passé, etc. Parce que dans les théories qui expliquent le fait que le sous-marin a coulé, le réalisateur a pris le parti de prendre celle qui est la plus communément admise, c'est qu'en fait une des torpilles à l'intérieur du sous-marin, qui avait un combustible qui était instable, a explosé, entraînant une autre explosion et le sous-marin a coulé. Ça, pourquoi pas, parce que de toute façon on saura jamais vraiment exactement pile poil ce qui s'est passé. J'ai une petite critique sur le niveau, sur du point de vue politique du truc, c'est que le film a un peu trop tendance à faire passer les Russes pour des connards qui ont rien fait pour leurs sous-mariniers et les Occidentaux pour des gentils, tout gentils qui voulaient vraiment sauver les sous-mariniers dans le bateau.
Comme dans la vraie vie, quoi.
Ouais, voilà. Enfin, à l'époque, c'était un secret de Polichinelle. Enfin, si les Occidentaux proposaient leur aide pour aller sauver les sous-mariniers, c'était quand même aussi pas mal pour eux de prendre des informations sur le sous-marin qui était le fer de lance de la dissuasion nucléaire des Russes, quoi. Ils y seraient pas allés juste pour ouvrir l'écoutille, leur dire, venez les gars, on va rien regarder, vous inquiétez pas, quoi. Donc, là-dessus, j'ai une petite critique parce que c'est évoqué dans le film, mais on fait passer les Occidentaux pour des gentils qui voulaient, non, nous, on veut juste aller sauver les sous-mariniers, on regardera pas, c'est promis, quoi. Voilà. Mais cela étant dit, c'est une toute petite critique parce que c'est franchement pas très grave. Le film reste quand même très bon.
Ok, ouais. Tu l'as noté ?
Je l'ai noté et ça date un petit peu, donc je vais te dire tout de suite comment je l'ai noté parce que je ne m'en souviens plus. Non, je suis pas logué, donc j'ai dû le noter. Il me semble de mémoire 8 sur 10.
Ok, intéressant. Je vais regarder ça, moi.
Personne ne l'a vu.
Non, c'est une production de quel pays ?
C'est vrai que je me posais la question
c'est,
aussi.
Ça y est, c'est l'école maintenant. On me pose des cols.
Non, c'est juste par rapport
plus,
du coup au parti pris, en
plus.
Effet.
C'est Thomas Vinterberg qui l'a réalisé. Par
est-ce que dans le style, c'est un peu comme... C'est quoi ce film où ils font la prise d'otage dans un avion, là, tu te souviens ?
Les ailes de l'enfer.
Excellent. Très très bon ça. Un des plus beaux films de Nicolas.
Non, il y a un vrai.
La prise d'otage tirée.
Toujours pareil, histoire vraie.
Non, pas les Israéliens. L'histoire
avec
vraie.
Avec Vincent Elbaz, je crois.
Ah, putain,
ah l'assaut.
Oui, l'assaut, ouais.
C'est mieux réalisé quand même. Enfin, c'est,
et dans
c'est
la narration, c'est comment ? C'est documentarisé ou c'est ?
Ouais, ils ont quand même a priori été assez.
Mais c'est quand même romancé. Enfin, c'est des acteurs qui sont en train de vivre le truc.
C'est forcément romancé parce qu'on sait qu'ils étaient dans ce compartiment. On sait qu'ils ont survécu. On sait qu'il y a eu un incendie à cause de cartouches
fusil.
Non, pour l'air, en fait. En fait, les cartouches qui permettaient de purifier l'air étaient inflammables.
Je m'étouffe, paf, tiens-moi dessus, paf, voilà, c'est bon.
On sait qu'il y a eu un incendie, on sait toutes ces choses-là, on sait en combien de temps ils ont survécu. Le film est assez factuel. C'est un cinéma un peu plus cru que le cinéma français ou que l'assaut, par exemple, où l'assaut, on en rajoute un petit peu sur le pathos, sur le machin. Là, non, c'est assez factuel, ça reprend les vraies conférences de presse qu'ont donné l'armée russe où on voyait des femmes de sous-mariniers hurler sur les généraux russes pour leur demander de sauver leur mari, enfin ce genre de choses là, non. Ils ont été assez factuels. Après il y a certains partis pris sur l'histoire parce qu'on sait pas tout ce qui s'est passé évidemment, mais dans l'ensemble non, c'est plutôt dans les films factuels, pas trop romancé, pas trop
Ouais, bah moi je pensais le regarder, donc maintiens l'idée. J'avoue que même faut que je m'en occupe, quoi.
Okay.
Ça fait un moment qu'il est sur ma liste de films à voir. Il date de 2018.
Le cinéma, il doit avoir un an.
Il est sorti en novembre.
Ouais, et DVD, etc. Ça doit être 3-4 mois qu'il est sorti.
Ouais. D'accord. Ok, très bien. Bon, ça sera à voir. Sur ces bonnes paroles, Glenn.
Et voilà.
Voilà, t'es plus
grimé couverture.
Tu vas nous lancer un beau débat. En nous parlant...
Attends, je me chauffe, là.
Donc, tu lances un beau débat en nous parlant de...
Alors, moi, je trouve pas mal de choses à regarder sur Netflix. On se plaint tout souvent d'avoir besoin de chercher hyper longtemps sur Netflix avant de regarder un truc.
Non, parce qu'on a kiffé.
Moi,
ça.
Je regarde pas mal de merde. Donc, ça m'aide.
Non, t'as pas le droit.
Attends,
tu me gâches une partie du plaisir.
Attends, alors, ouais. Donc, on va parler de The Wandering Earth, la Terre errante. Moi je l'ai pris parce que voilà la petite bande annonce qui vous met sous les yeux là sur Netflix, même quand tu l'as pas cherché à la regarder, m'a plutôt donné envie.
Pareil.
Et puis j'avais rien à faire, voilà. Pendant 2 heures. Donc The Wandering Earth, c'est
ça donne envie jusque-là.
Bon, c'est pas la peine de citer le casting.
Bon,
d'abord, ça fait des points au Scrabble, mais c'est pas prononçable. Et puis le réalisateur, on le connaît pas non plus. C'est Frant Guo. Non, ce qu'on peut noter, c'est que, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai regardé un peu le pitch, c'est que c'est considéré comme la première super production chinoise de science-fiction. Et ce qui est encore plus intéressant,
ouais.
Alors en dehors du fait qu'il a tout éclaté au box-office, mais ça c'est pas très intéressant parce qu'en fait en Chine actuellement, il laisse pas rentrer les films étrangers, donc t'as pas de Endgame en face, t'as pas de trucs comme ça, donc évidemment c'est pas trop difficile. Mais c'est aussi la première fois que la censure chinoise autorise dans un film la destruction de Pékin et Shanghai. Ah. Chose qu'on était hyper habitué à voir dans tous les Armageddon et compagnie. Tout le monde y passe. Hein. T'as toujours une scène dans tous les films comme ça où t'as 5 secondes sur toutes les grandes villes du monde qui prennent 2-3 météorites dans la gueule ou des aliens. Et en Chine, c'était pas autorisé. Tu pouvais pas faire des trucs comme ça.
C'est vrai que la destruction de bazouches ou aidés, ça attire moins les foules. Quoi.
Ah, et pourtant. Dans Armageddon, il y a un plan qui a été tourné à Dinan. Tu vois, une météorite qui passe au-dessus de Dinan comme ça.
C'est vrai?
Ah, c'est archi vrai. Ouais.
Putain, je vais re-regarder Armageddon.
Eh ouais.
Non, je déconne.
C'est dans la petite scène, c'est dans les deux derniers tiers du film.
Ah, c'est bien Armageddon, ça va.
C'est très bien Armageddon. Attends.
Plaisir coupable.
Ouais. Vous avez vu, les gars.
Donc voilà, pour finir là, sur les petites notions intéressantes, moi j'ai été super bluffé par les effets spéciaux. Je trouve que c'est de hyper haute volée. Et quand tu te renseignes un petit peu et que tu creuses, ben c'est Weta Workshop qui a fait ça. Donc les Néo-Zélandais qui sont occupés du Seigneur des Anneaux.
Je garde tout et je dis à la fin ce que j'en pense.
À la fin.
Bah ouais, puis je fais le tour après. Parce que bah clairement l'histoire, je te laisserai.
Non vas-y.
Faire un résumé. Bah
démonté.
Voilà, le soleil a pris trop de poids, il va bientôt se transformer en géante rouge et donc du coup la Terre est menacée. Donc toutes les nations du monde s'unissent pour créer d'énormes réacteurs à fusion. Environ 10 000 qui construisent tout autour de l'équateur.
D'une partie du globe, du coup.
D'une partie du globe, voilà. Pour se propulser en dehors de la force d'attraction du soleil et se barrer loin, quoi. Donc, d'où le nom Terre errante. Et c'est là où c'est super intéressant parce que tu dis, OK, ça pue le truc où c'est impossible à sortir en effet spéciaux. Et c'est là où j'ai été super bluffé. Et donc, sur leur course, ils se font gober, ils sont happés par l'attraction de Jupiter. Et là, ça pue du slip, quoi. Et donc, il commence à y avoir des tremblements de terre, des trucs sur une terre qui était gelée, puisque plus tu t'éloignes du soleil, évidemment, plus ça caillait. Et donc, tu vas suivre plusieurs aventures, une un peu orbitale et puis une sur Terre. Voilà, où là, clairement, bon, ils ont réuni les trios.
Ouais, d'ailleurs, c'est une partie des trucs un peu bizarres qu'ils expliquent pas dans le film et qui, à mon avis, sont expliqués dans le bouquin. C'est qu'en fait, t'as la Terre, donc, qui se déplace, qui sort de son orbite pour aller aux confins de l'espace. Et en plus, ils ont lancé une station qui est devant la Terre et qui ouvre le chemin. Et tu sais pas pourquoi.
Mais bah, c'est comme quand tu plonges à la piscine, tu mets les mains devant pour ouvrir, tu vois.
Mais si, ils expliquent carrément le truc. On spoil ce film ou pas?
Tu peux.
Ils expliquent carrément le truc. C'est-à-dire que c'est un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans le film, c'est le twist final. Je vais essayer de le faire sans spoiler quand même. C'est que la raison d'être de cette station orbitale qui part dans l'espace au départ est pas très intéressante en fait dans la diégèse du film, quoi.
Et du coup, elle sert à quoi? Parce que moi, j'ai pas retenu.
Ah, t'as pas dû voir la fin, je pense.
Tu t'es endormi à la fin.
Bah en fait, elle a une seconde mission. Et il y a un protocole qui s'active et elle passe en seconde mission qui elle avoue qu'au final, voilà,
elle t'a marqué du coup.
Elle était partie là-dessus dès le départ en fait, quoi. Ce qui est clairement un hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, si tu...
T'étais peut-être déjà parti descendre.
Quand tu regardes le truc, quoi. Mais voilà, bon, moi...
Donc plutôt
moi,
une bonne pioche, en fait.
Ouais, plutôt bonne pioche, franchement. Après, bon, bah voilà, c'est là où tu vois des fois aussi que certains acteurs, un casting... Moi, j'ai souvent tendance à me dire, mais pourquoi ils vont chercher des acteurs qu'on a déjà vus 1000 fois? Ça t'enlève forcément quelque chose du film. Je veux dire, quand un mec, t'es super habitué à le voir dans des rôles comme ça et que tu le vois dans un truc... il apporte quelque chose avec lui. Donc quand tu tombes sur un film comme ça avec un casting d'inconnu, alors inconnu pour nous, hein, j'ai pas de doute sur le fait que là-bas ils aient déjà crevé l'écran, mais là du coup t'as aucun repère à ce niveau-là. Et pourtant dans leur jeu, c'est hyper américanisé, quoi. C'est-à-dire que t'as un clown un peu grandiloquent. C'est du théâtre.
C'est du théâtre au cinéma. Par rapport à ce que tu commences à dire, j'ai hésité moi ce soir à vous parler de Wulu, qui est un film franco-sénégalais. Donc avec des acteurs sénégalais, tu vois le truc, c'est pas improbable, hein, il avait fait Palme d'Or, un truc comme ça, quoi. Mais c'est un des points que j'ai retenu du film, c'est les acteurs que tu connais pas, donc qui justement n'amènent rien avec eux, et du coup t'emmènes vraiment dans leur monde, enfin c'est authentique, c'est ça qui est cool, quoi. Alors que là, toi tu perds cet aspect-là dans ce que tu dis.
C'est ça.
S'ils s'américanisent, ils sont pas authentiques, alors que dans Wulu ils sont vraiment bien.
Ouais, c'est surjoué, clairement c'est surjoué, mais. Voilà, franchement, les effets spéciaux, ils défoncent tout. Les costumes des taïkonautes, là, sont énormes. Les véhicules sont pas mal. Enfin, après, voilà, chacun ses goûts, hein, mais je vois Juke qui tire la moue.
Du coup, tu l'as noté combien?
Bah, dis-moi, toi.
2.
Hein? Je l'ai noté, j'ai bien mis 7, je pense.
Je crois que t'as mis 7, oui, il me semble. De mémoire, il me semble que t'as mis 7.
T'as pas mis 7 parce que c'est... Non,
je crois, de mémoire.
C'est un bon divertissement, quoi.
D'accord. Donc Julien, allez, vas-y. Qu'as-tu pensé de The Wandering Earth ?
J'ai détesté. Il y a un truc qu'il faut dire avant, c'est que c'est basé sur un bouquin de alors c'est prononcé, je vais prononcer comme je peux, hein, mais c'est Liu Cixin, qui est un auteur chinois.
Ah, c'est le mec qui a fait La Chapelle.
C'est ça. Un auteur chinois de SF qui est connu, qui fait des best-sellers et qui fait de la super bonne SF. Maintenant, le film, enfin, c'est comment je pourrais le résumer ? C'est une copie chinoise de clichés américains dans tout ce que ça a de plus mauvais et de péjoratif. C'est-à-dire que les acteurs jouent comme des acteurs américains, mais enfin ils copient. Du coup, c'est surjoué à mort, mais à mort tout le temps. Évidemment, c'est un film sur de l'héroïsme, sur sauver la planète, etc. Donc évidemment, on te colle de la musique héroïque à deux balles pendant tout le film, c'est insupportable. Évidemment, on passe pas les incohérences, les raccourcis, les ellipses dans tous les sens. Moi, sur les effets spéciaux, j'ai trouvé que les décors à l'intérieur étaient géniaux. Je trouvais qu'il se prenait la tête pour faire vraiment les décors intérieurs super. Dès que c'était en extérieur et que c'était de la 3D, j'ai trouvé ça cheap à mort. Mais vraiment à mort. Avec, du coup, la planète est gelée parce qu'elle est sortie de son orbite et qu'elle s'éloigne du Soleil. Du coup, tout se passe, tout est gelé partout. Il y a de la glace et de la neige partout. Enfin, les véhicules, quand tu les vois se déplacer, ça fait de la fumée. Enfin, on se croirait dans un jeu vidéo, quoi. Ça fait pas film. Je suis désolé, ça fait pas effets spéciaux. Ça fait pas réel du tout, quoi. Et voilà. Et en fait, à la fin, je m'emmerdais parce que j'avais l'impression de regarder le réalisateur s'était dit, bon allez, je vais prendre un film comme Armageddon et je vais le copier. Sans me prendre la tête, je vais pas me faire chier, je vais juste copier.
Parce que les Américains font les uns après les autres.
Voilà, je vais pas me faire chier, le scénario, je m'en fous. Les mecs, comment ils jouent, bon, on s'en branle. Ils font tous soit la gueule, soit ils sont en train de crier. Basta. Voilà.
Mais en fait, ils jouent comme dans d'autres films chinois, hein, je pense. Quand tu regardes les films chinois, n'importe quel film chinois, que ce soit de la fantasy ou The Pillow Book ou The Truc ou The Machin, bah t'as l'impression que c'est surjoué parce que dans leur culture, ouais, y a aussi cette
du coup moi déjà d'habitude, enfin je sais qu'on dit tout le temps ici je grogne sur un tas de trucs, sur un tas de films, déjà d'habitude les films grand public où on se prend pas la tête, enfin où le réalisateur la production s'est pas pris la tête et veut juste faire un truc rapide qui sort au cinéma, déjà quand les Américains le font, pas terrible. Alors si en plus tu rajoutes une couche de conneries derrière où on copie juste ça, bah moi je suis désolé, mais ça, pour moi ça fait un navet, quoi, vraiment un navet.
Et moi je me dis plutôt que il y a un nouveau player in the game, quoi, c'est que les Chinois débarquent et que là où on avait l'habitude d'attendre que les gros blockbusters américains,
putain, ils copient les Américains du coup.
Ah, mais quand ils font leur cinéma, on le regarde pas.
Et pourquoi pas?
Bah cite-moi un autre film chinois que t'as vu récemment.
Bah je suis désolé, je connais pas toutes les productions, mais non, mais pourquoi
pas. On a parlé de un récemment là, le mec Guillaume, c'est toi qui as présenté un film. Oh, c'était peut-être japonais ou coréen?
C'était japonais, ouais.
Ouais, cinéma japonais, c'est ni bon ni mauvais.
Ok, donc, Juke, tu l'as donc noté 2, donc c'était pas terrible.
C'est dur.
Docteur Mad Geek l'a noté, tu nous as dit 7, un truc dans le genre. Donc voilà, bah, au bout de 12 épisodes du podcast de Kifim, j'espère que vous savez si vous préférez les goûts de Juke ou de Dr. Mad Geek. Et ouais, en fonction, vous pouvez choisir l'avis de l'un ou de l'autre, ou aller vous faire votre propre opinion devant The Wandering Earth. Alors, j'ai juste vite fait, pendant que vous parliez, été voir la bande-annonce. Franchement, c'est propre. On se dit, tiens, pourquoi pas. Après, le moment où Juke commence à en parler, on se dit, ouais, je vais peut-être pas perdre mon temps.
Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Ouais.
J'ai la dent dure souvent, mais là, franchement, enfin, là, c'est une copie.
On vous invite à vous faire votre propre opinion et puis à venir nous raconter ça sur Kifim.
Allez-y.
Ok. Dernier film à présenter, bah, c'est moi qui m'y colle. Alors, je disais tout à l'heure, j'avais hésité entre deux films. J'ai peut-être pas choisi le bon. Je vais vous parler de Glass.
Ah, aussi, je suis content que tu parles de ça, moi.
Ouais, mais je pense qu'on va pouvoir débattre. comment? Donc, je sais pas son prénom, de M. Night Shyamalan.
Michel.
Maurice. Sûrement. Donc, sorti en 2019, qui est la suite, c'est pas vrai, mais un peu inavoué de Split et Incassable. Pourquoi je dis inavoué? Parce que les films ont jamais été vraiment présentés comme trois suites. C'est-à-dire qu'il y a eu Incassable en 2000, où clairement on n'attendait pas nécessairement une suite. Split est sorti en 2017 et passé relativement inaperçu et n'a clairement pas été annoncé comme la suite d'Incassable. Et donc Glass sort en 2019 et réunit en fait les trois personnages principaux des deux films précédents. Donc Bruce Willis en Bruce Willis, incassable, en mec intuable. Zut, j'ai oublié l'acteur qui joue Split, donc un méchant aux multiples personnalités.
James McAvoy.
Et du coup, je suis
très bon, James McAvoy.
Oui, non. Et
rien, c'est une virgule.
Samuel L. Jackson.
Et Samuel L. Jackson en super méchant, quoi. Qui lui reprend pour le coup exactement le
Elijah
rôle.
Elijah Price.
Ouais, Elijah Price. Qui reprend exactement le rôle qu'il avait déjà dans Incassable, qui est de trouver les méchants et faire qu'ils s'affrontent avec les gentils pour prouver au monde que les super-héros existent.
Donc, bah lui, il explique en gros que les comics sont l'égal des hiéroglyphes sur les pyramides, quoi. C'est que ça raconte des vraies histoires.
C'est l'émanation de la vérité secrète des super-héros qui existent.
Trop cool comme idée.
Donc pourquoi pas finalement un film qui fait une sorte de suite sans vraiment faire une à des films qui ne se suivaient pas nécessairement jusque là. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Je dois dire qu'au début je m'étais même dit tiens je vais essayer de voir Split avant pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Je l'ai pas fait.
Alors justement a priori la fin de Split fait le lien avec Incassable.
Alors j'ai pas d'accord. Mmh. J'ai pas en regardant Glass, à aucun moment je me suis dit j'aurais dû voir Split. Pour le coup non. Même Incassable hein, finalement ils expliquent brièvement un peu la genèse des personnages. Donc on a un personnage plus ou moins échappé d'un asile, ce qu'on apprend devine, qui kidnappe des jeunes filles pour les tuer, bien entendu. La police est assez trousse, machin, tout ça. Le personnage campé par Bruce Willis, bien entendu, va se pointer et les sauver. Et à partir de là, franchement, je vais spoiler parce que je m'en fous en fait.
Rendez-vous au timecode numéro.
La police arrive, tu vois, genre il a sauvé les nanas. Personne n'a appelé les flics ni rien, mais il se pointe au bon endroit alors que ça fait 15 plombes qu'ils cherchent le mec et qu'ils savent pas où il est. Bon, ça tient pas la route, mais c'est pas grave. Et ils embarquent les deux. Bah oui, tant qu'à faire, parce que vu qu'il y en a un qui vient de sauver 4 nanas, autant l'embarquer aussi quoi. Donc
il est recherché par la police, il y a 10 ans le coup.
Oui, enfin donc alors procès, tout ce que vous voulez, bien entendu, non, hein, ils sont pas là pour ça. Ils te l'embarquent, ils te foutent les deux dans le même asile psy avec la même psy qui va essayer de leur faire comprendre que c'est pas des super-héros, mais c'est juste des gens qui ont des problèmes dans leur tête, quoi. Donc bien entendu, ils les foutent dans les deux cellules côte à côte ou dans la troisième cellule à côté. Qui sait qui a des qui, bah je vous le donne en mille. Il y a le grand méchant qui est dans le même hôpital psy parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que s'il avait mis dans un autre hôpital, bah le film tenait encore moins la route. Donc.
Mais c'est carrément expliqué, ça.
Mais non, mais oui, parce qu'elle va traiter les trois cas, parce qu'ils, c'est voilà. Ils ont la même
c'est
maladie.
C'est elle qui les met là.
Oui. Moi, je comprends. Admettons.
Moi, je comprends qu'on critique ça, c'est pas le plus gros problème
du film. Non, c'est pas le plus gros problème du film. Non, c'est que le début. Donc, admettons, ils les mettent dans le même hôpital. Bon. Donc, t'en as un, quand même, qui à minima, il a fait dérailler un train. Ils nous disent bien dans le film, il a tué des centaines de personnes. Donc, pour le garder, un garde. Et puis, c'est bien parce que c'est le même qui va garder les deux autres. Parce que tant qu'à tuer des gens aux séries, autant leur mettre un seul garde. Hein, je vous raconte pas que le garde, il va pas faire le film en entier, hein, bizarrement. Donc, forcément, ceux qui devaient tourner mal, tournent mal, ils se foutent sur la gueule, et le grand méchant est super content, scène de baston finale, etc. Donc ce film est une merde. Je vois pas comment le dire autrement. Alors, qu'est-ce qui cloche? Alors déjà, c'est vrai que peut-être je suis con et je devrais pas m'attendre à ça en regardant un tel film, mais ça tient pas la route. À aucun moment, il y a la moindre logique dans le truc. Je veux dire, pourquoi il se fait embarquer? Pourquoi il est en asile psy sans quoi que ce soit? Pourquoi il y a pas de garde? Pourquoi il y a rien? Donc, ça tient pas la route. Mais en plus de ça, on se retrouve du coup avec un film qui a une sorte d'unité de lieu et décor qui est l'asile psychiatrique, qui est... Et ça devient hyper pauvre, en fait. C'est-à-dire que... vous avez pas de scénario, bon, il y a pas de décor non plus. Les mecs, leurs super pouvoirs sont pas, c'est pas justement, c'est pas Avengers ou je sais pas quoi. Donc les super héros, enfin les, il y a pas d'effets graphiques et compagnie. Donc on n'est pas là pour se taper de l'effet spéciaux à outrance en tout cas. Donc ça, il y a pas non plus. Et puis voilà, au niveau scénario, enfin c'est peau de zob. C'est franchement, c'était la grève des scénaristes et il fallait quand même faire une suite. Donc, je me suis ennuyé à mourir, à tel point que, clairement, forcément, à la fin du film, qu'est-ce que je fais? Tout ce qui me reste à faire, c'est repérer tout ce qui tient pas la route. Et ça dure jusqu'à la dernière scène du film. Et encore une fois, je vous dis, hein, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir, mais je spoil. C'est-à-dire que les mecs vont se faire buter, mais dans une sorte de scène de grand n'importe quoi, de scène de cinéma. C'est-à-dire que les mecs se battent entre eux, les flics arrivent, les flics, il y a le mec, le grand méchant là, Elijah machin, qui est dans son fauteuil roulant, personne va le voir. Le gars, il est là, les flics, ils sont à 12 mètres, il n'y en a pas un qui pourrait le faire chier. Donc le mec, il peut continuer à faire ce qu'il veut. Pendant que les deux autres se bastonnent. Bon, ils se bastonnent, ils font leur petite affaire. À la fin, il y en a un qui gagne même pas, parce que c'est les flics qui tuent un des deux. Et là, il y a un des flics qui va décider de tuer le survivant. Donc, vous avez un parterre de flics qui regardent deux mecs qui se bastonnent sans s'occuper du troisième méchant qui est parti cueillir des fleurs. Et il y a un flic tout seul, il se décide à aller noyer. Comme ça, il lui met la tête dans une flaque d'eau au gars et il noie un des mecs. Personne. Hop, là, on a juste une scène avec un flic. La scène dure 3 minutes où le mec, il le noie. Non, il n'avait pas compris que l'eau pouvait le tuer, vous comprenez. Il est mort. Et là, quand il a bien fini de le noyer, là, il y a des flics qui se ramènent avec le fils du mec pour faire « Ah, il est mort, c'est affreux, on va essayer de le ranimer. » Eh les gars, pendant que vous étiez à 12 mètres, plutôt que jouer au Shifumi, vous auriez peut-être pu empêcher le mec de le tuer, plutôt juste essayer de le réanimer, quoi.
Attends, mais le mec, c'est un flic aussi.
Ah ouais, le mec qui tue le gars, c'est un flic. Mais là, t'as plein de petites scènes qui t'expliquent qu'ils vont faire une suite, parce que tu vois qu'ils ont des tatouages et des machins, et tu comprends qu'il y a un complot, il y a un truc. Tu comprends tout ça dans les dernières minutes.
Ce qui rend l'ensemble complètement logique, en fait.
Mais non, ça rend peut-être le truc logique, mais ça n'excuse pas le vide au niveau des scènes, de l'enchaînement, le décor, c'est...
C'est plutôt ça, moi, le problème que j'ai eu, c'est que les incohérences ne sont pas pires qu'ailleurs. Mais en effet, par contre,
la scène de fin, elle est...
Ouais, non, mais ok, je peux l'entendre. Moi, ça m'a pas choqué outre mesure. Il y a des trucs qui sont pas terribles, mais c'est pas choquant à ce point-là. Bon, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est qu'en effet, il fait cheap.
Au niveau scène, au niveau décor,
au niveau, en effet, scénario, au niveau, enfin, tout ce qui pourrait se passer dans le film, en fait, tout fait cheap, tout fait, je sais pas, moi, je suis sorti du film avec un énorme goût d'inachevé, quoi.
C'est hyper feignant.
Je pense que vous avez évolué parce que.
Il n'y a pas de photo, il n'y a rien.
Si, alors il y a carrément de la photo, en fait.
Alors il y en a une, la scène avec de la photo, c'est l'hôpital psy en rose. Et ça, une explication en plus scientifique. Mais le reste.
Non, mais les couleurs sont hyper travaillées, en fait. Effectivement, au niveau de l'hôpital psy. Je crois que, en fait, il faut enlever le film est mauvais. Je suis carrément d'accord. Je pense que le film est raté. La dernière demi-heure, elle a aucun sens, quoi. Enfin, elle est pas intéressante et t'as l'impression, un, comme tu disais, Joe, que c'est inachevé. En fait, ça a été mal écrit. Deux, comme tu dis, Atelzada, que c'est fait pour peut-être faire venir une suite, etc. Mais par contre, t'es à charge sur tout un tas de trucs qui sont hyper expliqués, justement mal expliqués. Enfin, maladroitement amenés comme un Deus ex machina qui sent la pauvreté scénaristique. Mais par contre, il y a plein de trucs que tu balances qui sont à charge et qui sont pas tout à fait vrais, quoi. C'est-à-dire que c'est un hôpital psy. C'est pour ça qu'il y a qu'un garde. Si les flics, ils se méfient pas du mec en fauteuil, c'est parce que eux, ils le connaissent pas, en fait. C'est la nana et son organisation qui sont chargés de récolter ces mecs qui sont un peu des mutants, des surhumains, bidules. Eux, ils le savent, mais il est pas passé par la case prison, ouais. Truc machin. Il allait direct dans un hôpital psy. S'ils sont ensemble à trois, côte à côte, c'est parce qu'elle veut les étudier pour ça. En fait, il y a plein de choses qui s'expliquent.
Mais ça reste assez
mauvais.
Tu me dis à charge, mais en fait, du coup, je trouve que moi, tu leur cherches des excuses après coup. C'est genre, pourquoi c'est merdique sur ces points-là? Ah, c'est pour ça. Ils sont dans le même hôpital psy, admettons, il n'y a qu'un garde, admettons, pourquoi pas.
C'est le scénario, c'est la nana qui c'est son métier d'aller chercher ces mecs-là.
Admettons, si, je dis admettons, parce que moi, j'y crois pas, donc je l'admets, je veux bien l'admettre et passer aux étapes d'après. Mais dans ce cas-là, je continue. Les mecs, elle les a soi-disant plutôt psychanalysés et elle va leur faire un rendu de sa psychanalyse aux trois en même temps, côte à côte, quoi. Enfin, je veux dire, où est-ce que ça tient dans quelle réalité ça tient la route? Aucune.
Et mais à ce moment-là, les deux films d'avant tenaient pas la route non plus.
Et après, non, mais d'accord, mais les autres, Incassables, t'étais dans un film fantastique, quoi. T'étais là pour bouffer du fantastique. Là, à ce moment-là, dans ce film-là, justement, ils sont en train de sortir du fantastique, puisque la nana, elle est là pour plus ou moins expliquer que c'est pas des super-héros. Donc t'es pas dans un film fantastique. Soi-disant, elle les a mis dans un milieu, pseudo-carcéral ou psychiatrique.
Ça joue sur ça. Elle est là, elle sait que ce sont des super-héros.
Oui.
Et son organisation ne veut pas qu'il y ait de super-héros.
À ce moment-là, tu ne le sais pas. Tu es dans un film qui joue.
Non, mais encore heureux qu'il y a des films où on comprend les choses qu'à la fin. Sinon, je le suspecte, c'est de la merde, quoi.
Incassable, Split et Glass, les trois films jouent sur le fait que tu sais pas justement si c'est des super-héros ou pas, quoi. À chaque fois, le film danse sur les deux pieds en disant c'est pas des super-héros, c'est des super-héros.
Mais on est bien d'accord, mais c'est ce que je te dis. Mais vu que la nana, et c'est son but ultime, est là pour prouver, même si elle sait que ce sont des super-héros, elle est là pour prouver que ce ne le sont pas, à ce moment du film, ce sont des prisonniers dans un hôpital psychiatrique. Donc, un petit peu de cohérence. Donc, outre ce que je dis, elle fait, ils sont dans les cellules à côté, voilà. Elle voit les trois en même temps, elle leur fait des rendus de psychanalyse, les trois en même temps, dans la même salle. Forcément, ça tourne mal. Mais elle reçoit aussi, à un moment du film, les familles de Split, et la famille de Bruce Willis, c'est deux familles qui se sont jamais vues et qui se connaissent pas. Et elle les reçoit en même temps pour leur expliquer quel est le problème de leur chère étante, là.
Moi, je trouve ça complètement logique par rapport à sa mission, mais bon.
Moi, je trouve que donc, c'est.
Par contre, mais si quelqu'un le ressent comme toi, bah, c'est clairement qu'il y a un truc qui est raté dans le film, de toute façon. Je veux dire, on peut en tirer cette conclusion quand même.
Mais, enfin, voilà. Peut-être parce que, voilà, moi, ils ont voulu pour moi, c'est ce que je dis, hein, ils ont voulu sortir, dire, bah, ce sont pas des super-héros, donc regardez, ils sont traités dans un cadre carcéral ou psychiatrique relativement normal. Donc, ça doit être relativement normal, mais sauf que, bah, voilà, ça l'est pas du tout. Alors après, oui, c'est une secte et on comprend que machin et tout. Mais non. Enfin, voilà. Bon, après,
De toute façon, c'est pété. Hein,
bon, ça peut être sujet à débat, mais pour moi, c'est vraiment pas le principal problème du film, quoi. C'est vraiment
Le problème, c'est que c'est une accumulation, tu vois, c'est ce que disait, Dr. Mad Geek. C'est au niveau du scénario, au niveau de tout, ça, on enchaîne les accumulations de ratés sur ce film-là. Et clairement, bon, bah, à la fin, on obtient une bouse, hein. À mon sens, on obtient une bouse. Donc voilà, je lui ai mis 3 sur 10 et je vous invite à profiter de ces 2 heures pour aller faire autre chose. mais voilà.
Moi, je suis un peu triste pour ce réal qui était promis à une grande carrière et depuis
le village
et encore le village, c'est un peu
je viens de voir que c'est le réalisateur d'After Earth que j'avais aussi saqué.
Il a fait plein de très bons films, mais ouais, il y a eu Le Maître de l'air. C'était une catastrophe,
un film de commande très raté, ouais. Et du coup Split avec engager un début de rédemption en fait dans la critique en tout cas
pour
auprès du grand public et tout
auditeurs,
ça quoi.
Le gars il avait commencé avec Incassable, il avait enchaîné avec Sixième Sens.
Non, c'est l'inverse.
À l'époque c'était une star.
Je crois que c'était Sixième Sens d'abord.
En fait, les deux sont 2000.
Bah, pour moi, c'est d'abord le Sixième Sens.
C'est d'abord Sixième Sens. Et justement, moi, j'avais adoré Incassable, quoi. Sixième Sens avait été tellement spoilé que j'ai pas pu l'apprécier. Mais par contre, du coup, j'avais grave aimé son cinéma avec Incassable que j'avais trouvé génial. Et il est très décrié, mais Signe est aussi un film que j'ai beaucoup aimé, quoi.
Moi aussi, j'adorais.
Et donc, ouais, c'est dommage.
C'est dommage, ouais, je crois. Je crois que c'est dommage.
Conclure là-dessus, c'est dommage.
Non, ouais, c'est clair, c'est dommage.
Night, si tu nous écoutes.
Merci à vous.
Merci.
Allez, merci. Salut à
toi. On se retrouve prochainement pour un podcast dédié aux séries.
Tout à fait.
Allez, salut, ciao, à bientôt.
Ciao.
Il y a un gars qui s'échappe d'un asile psychiatrique, qui d'un asile, enfin qui se met à tuer des jeunes filles. Le mec d'Incassable arrive, il les saute, il.
Non, faut pas la couper celle-là, faut la garder quoi.
Ça c'est le film que tu as vu après, ça n'était pas la même chose.
Comment tu peux faire un lapsus pareil, quoi?
Ça, c'est le meilleur. Parce qu'il y a un côté peut-être très suggestif dans la manière dont le personnage
rêvé après,
traite
ouais.
Cette jeune fille, je sais pas. Eh ben, on va pas faire de live tout de suite, les gars.
C'est magique, celui-là. Tu vas t'amuser pour couper, là.
Ouh, j'ai chaud.
Ah bah, bon. T'as l'air d'avoir chaud, ouais, en effet.
Putain, du coup j'en étais où? Comment tu veux que je
repars sur tu résumes le mec se barre de la